BPM, élection régionale 2021.
Bonjour et bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, les élections régionales auront lieu le 20 et le 27 juin prochain. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les élections régionales d'Île-de-France viendront répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Millienne, membre de la liste Envie d'Île-de-France, menée par Laurent Saint-Martin, soutenue par La République En Marche. Bruno Millienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député de la 9e circonscription des Yvelines. À l'Assemblée nationale, vous siégez à la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Vous êtes par ailleurs vice-président du groupe Modem à l'Assemblée. Vous êtes cadre supérieur dans l'audiovisuel. Et durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences de la région. Tout d'abord, en 30 secondes, pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette candidature ?
Écoutez, je me suis engagé aux côtés de Laurent Saint-Martin. Ça va nous permettre d'aborder un terme tout de suite parce qu'il a une vision du collectif assez forte. Et à cet égard, d'ailleurs, il compte changer considérablement la façon de gouverner la région. Contrairement à ce qui existe, mais dans toutes les régions, hein, c'est pas un fait uniquement francilien, à savoir qu'on se bat tous pour avoir l'exécutif régional. Mais on est les seuls à proposer de, une fois élu, gouverner avec l'opposition. C'est-à-dire offrir une place de vice-président de l'exécutif à un membre de l'opposition et offrir également des missions délégataires. Parce qu'une fois élu, on est élu pour tous les citoyens et pas uniquement pour ceux qui ont voté pour nous. Et ça, malheureusement, ça se fait pas beaucoup dans les régions parce qu'on s'aperçoit que ça devient vite des baronnies. On peut le comprendre, la France a fonctionné comme ça pendant des années et nous, on veut changer ça. Donc voilà, il y a ça qui est important, mais il n'y a pas que ça. Et puis, on instaurera aussi, au niveau de la gouvernance, des relations plus particulières avec les départements. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, à savoir on délocalisera deux fois par an le conseil régional dans des départements pour travailler avec les élus départementaux, mais aussi les élus des intercommunalités, une espèce de grand séminaire pour approcher la région des élus. On fera des permanences régionales aussi dans les départements, de manière à rapprocher les élus régionaux des citoyens, parce que c'est vrai, moi je me suis aperçu au cours de mon mandat régional, puisque je suis conseiller régional de 100 ans, que les conseils régionaux sont un petit peu, c'est un petit peu quelque chose de flou pour les citoyens, donc il faut qu'on se rapproche des citoyens, et puis on engagera le débat citoyen, bien évidemment, avec des consultations citoyennes, pardon. Et dernier petit point, on mettra en place, qu'Amélie de Montchalin a mis en place pour l'État, vous savez, ce petit indicateur des actions publiques qui est visible par tout le monde, on le fera à l'échelle régionale pour que les gens voient la progression thème par thème, de ce qu'on aura fait ou pas, il y aura une transparence totale.
On passe donc aux compétences de la région. On commence par les transports. Vous avez pour objectif de diviser par deux le nombre des retards des transports en commun ainsi que leur durée. Comment comptez-vous vous y prendre ?
Ben déjà, faut accélérer sur l'amélioration de notre réseau de transport public. On l'a bien vu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, je suis pas en train de dire que rien n'a été fait sous la mandature de Valérie Pécresse, mais il faut accélérer les choses, et notamment accélérer les choses pour les citoyens qui, comme nous, sont en grande couronne. Nous, notre situation, elle n'a pas tellement changé. Hein. Vous regardez certaines lignes, ce sont les mêmes trains depuis des années. On n'a pas de nouvelles rames. Il faut qu'on retravaille les cathéters, notamment on a des problèmes de cathéters, ce qui explique beaucoup de retard. Il faut qu'on fasse vraiment de la maintenance au-delà de la première couronne, quelque chose de prioritaire pour permettre quand même, il y a beaucoup d'habitants en deuxième couronne, pour permettre à tous ces habitants de pouvoir se rendre sur Paris. Et autre chose, il faut qu'on travaille sur le transport circulaire. Il n'est pas normal que les étudiants qui ont des cours à la fois à Cergy-Pontoise et à Saint-Quentin en Yvelines soient obligés de passer par Paris, ceux qui sont à Cergy, pour aller à Saint-Quentin et vice-versa. Donc il faut qu'on travaille énormément là-dessus.
Alors justement, on parlait des retards, mais plus globalement, pour le temps de trajet, vous avez également pour objectif de réduire ce temps de trajet pour aller vers différents lieux du quotidien. Alors qu'est-ce que la région 10-15-30, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous
alors,
visez
10-15-30, de mémoire, c'est 10 minutes. Oh là là, là, c'est une colle, je le retrouvais, parce que 10-15-30, c'est un slogan. En fait, l'idée, c'est de rapprocher les citoyens à la fois des gares, à la fois des lycées, et à la fois des lieux de consommation, d'après ce que j'ai cru comprendre, ou de la nature. On s'aperçoit qu'on veut faire de la mobilité une priorité en Île-de-France, et c'est normal, hein, l'Île-de-France est autorité organisatrice de la mobilité. On va d'ailleurs, dans la loi 4D, qui va être en discussion à l'Assemblée, redonner encore plus de compétences à la région là-dessus, puisque on va voir avec la région si elles peuvent pas reprendre les routes nationales non concessionnées, on dit, c'est un terme barbare, mais qui appartiennent encore à l'État, pour les donner à la région et travailler avec l'État de manière à ce que la région puisse s'occuper aussi de ces routes-là. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à faire en sorte, voilà, ça j'ai retrouvé 10 minutes, à 10 minutes d'un transport collectif, à 15 minutes d'une offre de service, donc c'est des commerces, et à 30 minutes d'un lycée. C'est l'idée globale. C'est un slogan, évidemment, il faut qu'on se rapproche de ça. Et vous apercevez qu'en termes de mobilité, on a un peu fait les choses à l'envers jusqu'à maintenant. Enfin, comment dire, à l'envers. La mobilité, c'est quelque chose de très compliqué, donc, à mettre en œuvre. Mais regardez sur nos territoires. Moi, je parle des territoires que je connais. Donc, on va parler du Mantois et du Bonnierois, du Houdanais, qui sont les territoires sur lesquels est ma circonscription, plus précisément. On n'a toujours pas de gare d'intermodalité. Il y a des projets. Il y a un projet qui essaye d'émerger à Épône. Il faut que je m'en occupe. Mais voilà, il faut qu'on trouve le moyen, un, d'amener les gens vers les points d'intermodalité. Donc ça nécessite du transport à la demande. On a dit qu'on en ferait du transport à la demande 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour permettre aux gens d'arriver sur des points de relais ou tout simplement pour les permettre de se déplacer. Je pense aux personnes âgées, c'est compliqué des fois de trouver quelqu'un pour vous emmener soit chez le médecin, soit simplement aller faire vos courses, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, des pôles d'intermodalité, bien évidemment, en grande couronne, pour éviter le flux de voitures vers la capitale, d'autant qu'on le sait, la capitale se ferme de plus en plus aux véhicules automobiles. Et ces points d'intermodalité devront réunir à la fois de la mobilité douce, mais à la fois des aires de covoiturage, et puis des transports en commun, que ce soit bus ou train.
Et alors, concernant les transports routiers, vous souhaitez rendre la voiture électrique accessible à tous. Alors, par quels moyens ça peut se faire ?
Alors, il y a deux axes. Il y a d'abord les aides de l'État, mais on sait que les aides de l'État, à un moment donné, vont baisser parce qu'on ne vit pas dans une économie subventionnée, malheureusement. Donc, nous, on va accompagner les gens qui veulent changer leur voiture. Alors, les particuliers, on prendra un tiers du prix de la voiture à notre charge, de manière à ce que ça leur fasse un coût plus bas, même sur les voitures d'occasion. Et pour les professionnels, on en paiera la moitié. Donc, voilà, ça, c'est une vraie aide. Et il y a une autre aide qu'on essaye de faire, mais ça c'est plus dans l'économie, je vous le dis quand même, on a un grand projet de refaire de la vallée de Seine, ou même de faire des Yvelines d'ailleurs, le département de l'automobile de demain. Vous avez toute la recherche et développement à Saint-Quentin, Guyancourt et sur le plateau de Satory. Ça c'est recherche et développement. Et vous avez toute cette vallée de Seine qui dans les années 70 était la vallée de l'automobile, on peut le dire, puisque tous les grands constructeurs étaient là. Moi j'ai envie qu'on recrée ça, mais sur l'automobile de demain, en s'appuyant sur Renault à Flins avec son usine de recyclage qu'ils vont mettre en place, et autour créer un écosystème de la voiture de demain, et notamment travailler, c'est important pour les poids lourds, travailler sur le rétrofitage des véhicules, parce que c'est ça qui va nous aider aussi à faire la transition énergétique des véhicules.
Un mot sur la sécurité, alors ce n'est pas spécialement une compétence de la région, mais justement, une de vos mesures, c'est la création d'une police régionale. Comment agirait-elle ?
Alors la police régionale, c'est dans le droit fil, dans la continuité de la loi de sécurité globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on coordonne toutes les forces de sécurité qui existent sur le territoire. Donc il faut faire grandir les polices municipales, ça la région peut aider. On veut également 500 agents qui seraient mis, 500 ou 1000, je ne me souviens plus, agents qui seraient mis directement à Île-de-France Mobilité dans un pôle qui serait en coordination avec la préfecture, pour beaucoup agir effectivement à la fois sur les transports en commun, parce qu'il y a une insécurité énorme dans les transports en commun, mais aussi dans ces agents-là, il y aurait un pôle unique hein, évidemment, mais dans ces agents-là, il y aurait des agents qui seraient aussi en bordure des lycées pour sécuriser les lycées. Et ces agents-là travailleront, ces agents de sécurité, cette police régionale travaillera en parfaite coordination à la fois avec les polices municipales, mais à la fois avec la police et la gendarmerie. L'idée, c'est de coordonner toutes les forces de sécurité en Île-de-France et de venir en aide aux forces déjà présentes, en créant une force d'appoint.
On passe maintenant à l'enseignement, et notamment au lycée. Il y a, selon vous, un retard à rattraper. Comment combler ce retard ?
Il y a un retard considérable à rattraper, notamment dans la réfection des lycées, ce qui est catastrophique. Alors, je crois qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, il y avait un retard considérable qui avait été pris par la majorité avant celle de Valérie Pécresse. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je pense qu'on fait les travaux par phase. Et entre deux phases, il peut se passer jusqu'à 10, 15 ans. Donc en gros, la première phase que vous avez faite, que vous avez remis à neuf, 15 ans après, vous pouvez la recommencer. Donc vous êtes en travaux perpétuellement. Je pense qu'il vaut mieux faire tout d'un coup sur les lycées, d'un seul bloc, faire la rénovation d'un seul bloc, et puis peut-être en faire moins, mais là, il faudrait qu'on fasse un audit complet de l'état des lycées, et commencer par les lycées les plus vétustes, pour après rénover ceux qui le sont le moins. Et puis, ne pas faire de différence, j'en reviens à la gouvernance, entre la couleur politique du maire ou du département qui abrite les lycées qui ont besoin d'être rénovés. Malheureusement, c'est encore trop souvent le cas. Moi, j'ai eu le cas sur ma circonscription avec le lycée François Villon au Mureau, qui attend des rénovations depuis 20 ans. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut pas seulement servir ses copains, il faut savoir servir ceux qui en ont le plus besoin d'abord, et puis après les autres.
Et sur les cantines dans les lycées, quels sont vos objectifs?
Même pareil. Alors sur les cantines, pareil, il y a besoin de rénover certaines cantines, parce qu'il y a des cantines qui ont été formatées pour un certain nombre d'élèves. Or, le nombre d'élèves a explosé, donc celles-là, il faut les rénover totalement. Ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, oui, il faut arriver à faire du 100% durable et bio. Alors, la proportion entre le bio et le durable, je vous la donnerai pas, parce que moi, je n'oppose pas les agricultures, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on développe le bio en Île-de-France. On a beaucoup progressé. Alors, encore une fois, on a beaucoup progressé. Plus 25% sous la mandature de Valérie Pécresse. Je suis obligé de le reconnaître. Mais ces plus 25%, malheureusement, ne représentent que 1% de l'évolution au niveau national. Vous voyez le retard qu'il y avait dû, paradoxalement, à des majorités de gauche, c'est quand même assez hallucinant. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais il faut qu'on travaille là-dessus avec les acteurs et avec tous les acteurs de l'agriculture. Un reproche que je pourrais faire à la région, même si la Chambre d'agriculture est un partenaire primordial pour la région, ça ne peut pas être le seul. Il faut qu'on travaille avec tous les agriculteurs et tous les corps intermédiaires qui représentent les différents agriculteurs. Et puis, dernière chose, je pense qu'il est temps qu'on fasse un audit de la qualité des terres franciliennes, parce qu'il y a des terres qui vont bien et il y en a d'autres qui vont pas bien, et histoire de savoir exactement ce qu'on fait comme type de culture, et comme on rêve de refaire une grande ceinture de maraîchage en Île-de-France, si on ne passe pas par l'étude qualité des terres, je vois pas très bien comment on peut faire.
On a parlé des lycées, on parle maintenant des lycéens. Une de vos principales propositions, c'est la mise en place de 200 000 mentors pour les lycéens. Quel serait le rôle de ces mentors?
Alors ça, c'est très important, parce qu'on s'aperçoit, et vous le savez très bien, avec le chômage des jeunes, ce qui est compliqué, un jeune qui a à la fois quitté le lycée, les études, et qui s'est enfermé finalement dans l'assistanat, même si j'aime pas le terme, c'est un jeune qui n'a pas de repère par rapport à l'entreprise. Et donc pour lui, l'entreprise, c'est un peu le diable. C'est quelque chose qui va pas. Et il y a des jeunes qu'on n'arrive pas à faire revenir dans l'entreprise, qu'on n'arrive pas à socialiser, entre guillemets, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire, parce que ça veut pas dire qu'ils sont pas socialisés par ailleurs, mais socialisés dans le monde du travail. Et moi, je suis en train de mener une expérience avec ma collaboratrice. On a mis en place justement un truc comme ça, où on confie des jeunes dont les missions locales ont beaucoup de mal à s'occuper, ou sont un petit peu inquiets par rapport à leur avenir. On les confie à des coachs qui vont les coacher, mais de manière très, très proche, très intime, au quotidien, pour essayer de leur trouver un emploi. Ça, c'est le but recherché. Mais c'est pas trouver un emploi pour trouver un emploi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment, on arrive à leur provoquer le déclic dans l'entreprise où ils ont choisi d'aller, de dire, bah oui, finalement, ce que je fais là, c'est vraiment bien, ça apporte quelque chose à la société, ça m'apporte beaucoup à moi, donc je vais continuer. Donc voilà, je suis à nouveau inséré dans la société. Et ce type de mentorat, si on le commence dès le lycée, c'est beaucoup mieux. Alors après, sur la formation des apprentis et sur le mentorat, moi je vais commencer des discussions aussi avec l'éducation nationale. Il faut qu'on mette un coup d'accélérateur sur les écoles d'apprentis, sur les écoles de formation, parce que je trouve que le niveau n'est pas terrible. J'en parlais encore ce week-end avec des restaurateurs, et ils ont du mal à trouver finalement. En fait, le boulot qui est fait dans les écoles de formation n'est pas au niveau de ce qui est fait quand ils sont dans le restaurant en tant qu'apprentis. Et c'est compliqué après de garder ces jeunes. Or, il faut les garder dans l'emploi, même dans des emplois qui sont, comme dans la restauration, assez particuliers, assez difficiles.
Alors ça nous amène au développement économique. Une mesure forte de votre programme, c'est le lancement d'un fonds d'épargne populaire. À quoi servirait-il?
Alors le fonds d'épargne populaire, il est venu... C'est une idée de Laurent Saint-Martin, qui est rapporteur général du budget. Il connaît bien l'épargne des Français. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire bondir. Pas seulement l'épargne qui a été cumulée pendant la crise Covid, l'épargne globale des Français en France. c'est plus de 5 500 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez ça, 5 500 milliards d'euros, non seulement on peut rembourser la dette de la France, mais on a encore la même somme, voire plus, pour le développement économique. Pas question, on serait dans un pays totalitaire, ce serait facile, hein. On réquisitionnerait tout et on irait, mais on est en démocratie. Donc l'idée de Laurent, c'est de dire, plutôt que de mettre votre épargne sur un livret A, dont le taux de rendement est assez faible finalement, la région vous propose une chose. Vous mettez un euro, on abonde d'un euro, dans la limite des 300 euros. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre plus de 300 euros. Donc l'engagement est finalement pas très élevé, d'accord ? Et la région donc abonde à hauteur de 300 euros, puisque c'est le plafond maximum. Et cet argent-là, on va le placer directement dans la relance économique de la région et dans la création d'emplois. On a un déficit en Île-de-France de TPE et de PME, toujours pareil, sur la partie, sur la deuxième couronne, donc encore sur nos territoires. Et ça, c'est très gênant, parce que le but, c'est quand même d'arriver à faire en sorte que les gens travaillent près de leur lieu d'habitation et près de leur lieu de vie. Or, sur les derniers investissements qui ont été faits, 70% des investissements sont Paris, première couronne, et 30% seulement deuxième couronne. Il faut véritablement qu'on arrive à sortir la deuxième couronne de cette espèce de fracture territoriale dans laquelle on est, et qui font que des gens sont obligés d'utiliser leur voiture, de prendre les transports en commun. Vous le savez bien, quand on habite à Mantes, c'est deux heures et demie, trois heures par jour passées dans les transports en commun, ce qui vous fatigue, ce qui vous empêche d'avoir d'autres activités, enfin, ce qui ne vous donne pas une vie sociale satisfaisante.
Autre mesure importante, la carte Envie d'Île-de-France pour orienter les Franciliens vers les produits et les services locaux. Comment fonctionnerait cette carte ?
Alors, le fonctionnement exact, je ne le possède pas, mais l'idée est la suivante. L'idée est que l'Île-de-France est un territoire de tourisme et de découverte absolument fantastique. Or, à part les grands lieux que vous connaissez de la capitale, à part Versailles, à part le château de Fontainebleau, à part des lieux comme ça, à part, bon, Giverny n'est plus en Île-de-France, mais dans notre coin, à part Giverny, bah finalement, les touristes sont pas amenés à, les touristes, que ce soit les franciliens ou les touristes étrangers, sont pas amenés à visiter nos régions. Vous prenez un département comme les Yvelines, moi qui suis ancien golfeur, c'est une terre de golf fantastique, on n'a pas l'infrastructure hôtelière pour accueillir les gens qui voudraient jouer au golf. Pire que ça, les intercommunalités ne s'arrangent même pas entre elles pour flécher, vous savez, les chemins de randonnée. Alors, dans le pays oudanais, c'est très bien fait, mais il n'y a pas de liaison, par exemple, avec Galimauldre. Il n'y a pas de liaison avec les ports d'Île-de-France. Il n'y a pas de liaison avec GPSEO. Alors qu'on pourrait mailler complètement notre territoire et faire transiter les gens, justement, par ces lieux, ces petits lieux culturels ou de production locale, visiter nos fermes qui sont fantastiques, etc. Et ça, c'est un projet, oui, effectivement, intéressant.
Justement, on parle de tourisme, de la vie culturelle, donc ça c'est pour essayer d'amener un peu les gens pour redécouvrir ce que la région a à offrir. Mais comment soutenir ces secteurs que sont le tourisme et la vie culturelle ?
Bien, c'est ça, faut être imaginatif, créer des choses. Par la vie culturelle, par exemple, prenez l'histoire des librairies, une librairie indépendante dans chaque commune de 10 000 habitants, d'accord, de 10 000 habitants et moins. Le bonheur passe aussi par la lecture. Donc il faut qu'on aide, on aidera ces gens-là effectivement à s'installer et à se maintenir, parce que c'est quelque chose de vital pour les gens. On l'a bien vu, hein, quand les librairies ont été fermées, jugées non essentielles, ça a été un drame. Je vous dis pas qu'après leur ouverture ça marchait mieux, mais si, il y a quand même un mieux. Ça, c'est très important. Puis la culture, moi je regrette une chose qu'on avait ici dans le Mantois, faut qu'on réactualise tout ça. Vous savez, Blues sur scène qui se trimbalait, ou Tracteur Blues, voilà des événements. Moi, Tracteur Blues, c'est une idée géniale. Vous pouvez vous balader partout dans tous les villages. Il faut qu'on finance ces activités-là aussi.
Bruno Millienne, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera rediffusée à 13h et à 19h. Demain à 7h30, nous recevrons Laurent Morin, candidat tête de liste des Yvelines pour la liste Le Choix de la Sécurité de Jordan Bardella, soutenu par le Rassemblement National aux élections régionales. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.